Ah, je suis quand même enflammé ce matin. Je regarde mes notes et je suis embêté. Je suis embêté parce que je me dis que je vais avoir beaucoup de mal à les suivre. Parce qu'il y a pas mal de pensées qui, depuis quelques semaines, tournent dans ma tête. Et puis, semaine après semaine, réunion après réunion, intercession après intercession, les choses, c'est des choses tellement simples que le Seigneur nous dit, mais je me dis, Seigneur, si tu nous le dis, c'est que tu veux qu'on le mette en pratique. Et il y a vraiment cette question de mise en pratique. Donc, j'aurais envie de prier toute la matinée, tu vois. Mais on va pas faire ça, parce qu'on est là pour quand même entendre la parole de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu, elle a un impact sur nos cœurs, sur nos vies. Et on veut savoir ce qu'elle nous dit. Alors, papa, il a parlé pendant 2 semaines. Il nous a parlé du prophète Élie et du prophète Élisée. Pour ceux qui étaient là, peut-être que tu as raté un dimanche, peut-être que tu n'en as entendu qu'un seul. Mais il nous a parlé de cet homme qui est vraiment un emblème quand même au niveau des personnages bibliques. On se dit, mais on parle d'Élie, tout le monde connaît Élie. Tu vois, c'est Élie, c'est l'homme de feu. C'est l'homme qui a appelé le feu de Dieu. Impressionnant. Ah, j'aime beaucoup Élie, j'aime ses histoires. Et il nous a parlé du fait que Élie, à un moment donné, il y a une histoire de manteau. Et il va dire à son jeune apprenti, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, remandera une double onction, vas-y, prends mon manteau. Et alors, il nous a stipulé qu'effectivement, Élie a fait 7 miracles et qu'Élisée aura fait plus ou moins le double. Et à la fin, il nous a mentionné le fait que Élie a transmis et que la transmission, c'est excellent, c'est important, c'est que si Dieu nous donne, c'est pour donner, c'est pas pour garder pour nous. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Si tu as un vase plein qui veut toujours te remplir, mais que jamais tu donnes, eh bien, tu ne pourras pas être rempli à nouveau, l'eau va stagner et tu n'auras plus une bonne odeur et de l'eau qui stagne, c'est jamais bon. Il y a une drôle de vie, tu vois, bactérienne qui va se développer. Tu vas boire ça, tu seras malade. Et on ne veut pas rendre les gens malades autour de nous, mais on veut leur donner quelque chose à boire qui les vivifie. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Moi, j'ai envie d'être vivifié. Je n'ai pas juste envie de boire une petite eau, tu sais, qui tout doucement m'éteint. Non, je veux quelque chose qui me booste. Alors, cette transmission entre Élie et Élisée, il nous a parlé aussi du fait que Élisée, lui, alors qu'il a suivi son maître, lui n'a pas transpris, n'a pas transmis. Il n'a pas transmis. Quel homme de Dieu! Mais il est parti, il est resté dans sa tombe et son dernier miracle, ce sera même quand il est mort, on va jeter quelqu'un sur lui et il va revenir à la vie. Mais il n'y a pas transmis, il n'y a pas donné. Donc voilà, c'était un peu les pensées qu'il nous a partagées. Et moi, j'aimerais revenir quand même sur ce qui s'est passé au départ. Parce que c'est vrai qu'on parle du manteau, on parle de l'onction, on parle de la consécration, on parle de la présence de Dieu, on parle de la sanctification. Et c'est des mots qui sont importants pour nous, mais parfois on mélange certaines choses. Surtout dans nos milieux à nous, les milieux charismatiques, où c'est vrai qu'on aime la puissance de Dieu. Moi, c'est ce que je disais hier à Pierre. Je dis, je suis le premier à aimer la puissance de Dieu, à aimer les manifestations du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit à 4 ans. Et puis après, je suis revenu à Dieu. Il m'a touché à nouveau. Le Saint-Esprit me parle souvent, d'une certaine manière, d'une manière très, très forte, très précise, où je ne peux pas me dire c'est les émotions, tu vois. J'ai une relation que j'aime beaucoup. Mais je vois beaucoup de choses dans l'Église où parfois on court après certaines choses, on passe à côté de l'essentiel. Donc on va essayer de recadrer tout ça au travers de cette histoire de comment Élie va aller chercher son successeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes en forme là? Parce que on va dérouler là. On va visiter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il va falloir suivre. Alors on va déjà lire le premier passage, 1 Rois, chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple, puis se leva. Le contexte de tout ça, c'est un contexte où Élie, il est un peu fatigué. Il a déjà fait des belles choses, des beaux miracles pour Dieu, mais il y a peur, il y a crainte, il y a la crainte en lui parce que tous les prophètes en Israël ont été tués, on leur a voilà, c'est un contexte défavorable. On est dans un moment d'Israël où Israël s'est tourné vers le roi, vers la divinité de Baal et a abandonné Dieu en majorité. On est dans un moment d'apostasie pour le peuple d'Israël. Et Élie, il se dit, mais je suis certainement le seul encore à adorer, à louer l'Éternel, le Dieu des dieux. Il y a peur, il y a crainte. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va l'encourager, il va dire, non, j'ai préservé 7000 hommes et je te demande maintenant d'aller oindre Hazaël pour roi de Syrie et Jéhu pour roi d'Israël. Et en plus de ça, tu vas aller chercher Élisée dans telle famille et lui sera ton successeur. Quel encouragement pour lui. Il était dans le trou, Dieu lui parle. Non, tu n'es pas tout seul. Et en fait, pourquoi le ministère d'Élie est important? C'est que le ministère d'Élie au départ de son ministère, ça a permis le début de la fin du culte à Baal en Israël. Et c'est Élisée qui va conclure ce commencement. Élie va commencer. Et sous le ministère d'Élisée, il n'y aura plus d'adoration envers Baal en Israël. Il aura fallu deux hommes, plus ou moins 60 ans le ministère d'Élisée, Élie encore avant, donc vous imaginez un bon moment. Et pourtant, Dieu les accompagnait avec de grands miracles. Il a fallu un certain temps pour que le peuple retourne devant l'Éternel. Donc voilà le contexte dans lequel Élie, donc, qui est obéissant à Dieu, va trouver Élisée. Élisée, lui, c'est un jeune homme qui a grandi dans une famille qui avait la crainte de Dieu. Il a grandi, il a entendu l'enseignement, et puis c'est un garçon, vous voyez, qui est sérieux, qui fait ce qu'on lui demande, il travaille pour la famille, il est en action, et ce n'est pas pour rien que Élie va venir et va le trouver en train de travailler avec les bœufs. C'est un garçon qui a eu l'enseignement de Dieu au travers de ses parents. Il a appris au travers de la nature, au travers de son travail, et qui est très consciencieux dans ce qu'il faisait. Et il y arrive, vous imaginez la scène, il arrive. Alors il le connaît certainement, il sait ce qu'il représente. Il se promène, il prend le manteau et il le balance dessus. Et lui, ce qui est important, c'est qu'il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de « mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Explique-moi ». Il comprend à ce moment-là que le prophète, que Dieu au travers du prophète l'a choisi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court après Élie. Waouh! C'est fort! Il court après lui. Mais il va dire, attends, écoute, c'est super, c'est intéressant, je sais maintenant dans quoi je m'engage. Mais vous voyez, à ce moment-là, il est couvert du manteau d'Élie. La couverture, le manteau, ça veut dire que c'est la question de la succession, mais plus que de la succession, c'est la question de la gloire. Donc Élie est en train de dire, la gloire que j'ai connue, je te la donne, tu vas la connaître. Ce sera la même onction. D'accord? Et tu vas être couvert, ta vie sera couverte de ça. Vous imaginez, le jeune, il est chaud! Il est en train de travailler dans les bœufs, il aimait Dieu, il était sérieux, et là, le prophète arrive, c'est bon, c'est maintenant, suis-moi! Ah, il est content! Tu ne serais pas content, toi? Quel lancement dans le ministère! Un homme de Dieu reconnu, hop, qui t'approuve, suis-moi! Vous voyez la couverture? Après, Élie va quand même reprendre son manteau. Il ne lui laisse pas tout de suite. Il ne lui laisse pas tout de suite. Et là, il va loindre comme prophète. Et en plus, il est loin. En deux minutes, tout est réglé. Tu es prophète, tu as mon onction, tu es approuvé de Dieu. Ça a de quoi donner la grosse tête, non? Et qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin du verset? Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il est devenu, pas un grand prophète tout de suite, il a commencé par servir le ministère. Appelé pour servir. Et pourtant, il était déjà, entre guillemets, nommé. On savait déjà ce qu'il y avait sur sa vie. Mais il fallait qu'il apprenne, qu'il aille maintenant à l'école de la foi. Il avait été à l'école de la vie, il connaissait les écrits, à l'école, entre guillemets, chrétienne, de la foi, vous voyez. Mais maintenant, c'est l'action, la pratique. Tu vas voir comment fonctionne l'ancien, et tu vas faire comme lui. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la question de couverture. La semaine passée, je vous ai parlé de la Sainte-Seine. Vous vous souvenez? On a fait la Sainte-Seine. Quel était le mot essentiel dans cette présentation, pour ceux qui s'en souviennent? Eh bien, c'était couvert du sang de l'agneau. Et je vous avais parlé de l'agneau d'Exode jusqu'à l'agneau de Dieu. Que la différence ne se fait pas par la croyance, elle se fait parce que tu es couvert du sang. Et que celui qui s'approche à la Sainte-Seine, c'est une question d'être convaincu que je suis couvert du sang de l'agneau. Sinon, ça ne sert à rien de t'approcher. Peu importe ta dénomination, peu importe qui tu dis que tu es, c'est d'être convaincu que je suis couvert du sang de l'agneau. La question de couverture est essentielle dans la vie chrétienne. Suis-je couvert du sang de l'agneau? Suis-je digne de Dieu aujourd'hui, maintenant, au phare, à l'heure actuelle? Et donc, il y a la question du manteau qui va symboliser la gloire de Dieu. Et je vous avais dit, seuls ceux qui acceptent et appliquent le sacrifice de Jésus à leur vie sont sûrs d'être couverts du sang de l'agneau. Je suis convaincu que Christ est mon sauveur. Et en plus, j'applique ça concrètement à ma vie. Ma vie suit avec ma conviction. Mes choix suivent avec mes convictions. Eh bien, auquel cas, je peux m'approcher. Je sais que déjà, ce en quoi je crois me donne la possibilité d'avancer. Alors, Élisée, il a tout de suite répondu à l'appel. Et ce qu'il va faire, on l'a lu, il va aller dire au revoir à sa famille. Il va dire, les gars, ça y est, c'est bon, je change de vie, je m'engage sur un autre chemin, il y a une nouvelle histoire pour moi, je viens vous l'annoncer, les parents devaient certainement être très contents. On t'envoie, mon fils. Par contre, on va devoir trouver un autre ouvrier. Ça, c'est pas facile à l'heure actuelle, tu comprends. Et puis, hop, il va voir ses bœufs, il en prend deux, il les sacrifie, il prend le bois, il fait un autel à l'Éternel et c'est parti. Ce qu'on doit retirer de tout ça, c'est que tout de suite, immédiatement, il a reconnu l'appel et il y a eu un sacrifice. Il y a eu une consécration. La consécration, c'est j'abandonne ce qui est derrière moi, je tourne la page et je m'engage pleinement à une tâche que Dieu m'a donnée. C'est ça être oint dans l'Ancien Testament. On était en train de oindre les rois, oindre les prophètes, oindre les prêtres pour qu'ils s'attachent à une seule chose. Ils étaient consacrés, mis à part pour cette tâche-là. Et ça, il a bien compris Élisée. Alors, il abandonne son ancienne vie. C'est fini de labourer les champs. Je gagnais bien ma vie, mais ma vie doit prendre une autre direction. Alors, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà dit, les rois étaient oints, les prêtres et les prophètes. Pour qu'ils puissent, pour le roi, c'est tout simplement conduire le peuple, avec, si vous voulez, cette assurance que Dieu l'approuvait, que Dieu était avec lui. Ensuite, le prophète, c'était annoncer les choses à venir, préparer le peuple, reprendre parfois, parler de la part de Dieu au peuple. Il était couvert de ce manteau, de cette autorité. Et le prêtre, lui, c'était pour tout simplement offrir à Dieu ce qu'il avait à offrir et puis organiser le culte autour de lui et répondre à ses exigences. Oindre, c'est être couvert de la présence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, Wilfried, il nous a parlé du fait que Christ est avec nous tout le temps. L'Esprit est avec nous tout le temps. Et il nous a dit, il faut que tu aies conscience qu'il est avec toi tout le temps. Ça veut dire que quand tu es seul, il est avec toi. Du coup, quand tu en as conscience, tu n'agis pas forcément de la même manière. Tu es plus attentif à ce que tu fais. Parce qu'un jour, tu as déclaré, peut-être, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. Et quand tu es tout seul et que tu oublies qu'il est avec toi, parfois tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Et c'est comme si Dieu, il s'éloigne un peu de toi. Tu vois, il dit, ah là, ça sent mauvais, ce n'est pas un parfum d'une bonne odeur, et je m'éloigne. et qu'il faut avoir conscience que Christ, que l'Esprit de Dieu nous accompagne en tout temps, auquel cas je garde ma vie qui va être digne de Dieu. C'est juste ou c'est pas juste? Alors être moins, c'est ça. C'est on m'a donné une autorité de la part de Dieu, déléguée. Je me mets à son service. Tous les jours, quand je me réveille, je ne sens pas forcément la présence de Dieu, mais Dieu est avec moi. Il me donne le pouvoir d'opérer certaines choses pour l'avancement de son royaume dans sa volonté. Mais vous voyez, je ne suis pas toujours là dans la présence de Dieu. Je vis comme tout le monde, je mange comme tout le monde, je parle comme tout le monde, mais je ne suis pas dans la sensation toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un ici qui est tout le temps dans la Shekina, comme on dit. Tu vois, il est là et... Il y a des flammes de sa bouche. Moi, je connais personne ici, excusez-moi. Moi non plus, mais... Ouais, mais par contre, il y a des moments comme ça, suspendus dans le temps, où c'est la Shekina. Il y a la présence de Dieu et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste ou c'est pas juste? Et si tu ne l'as jamais connu, je t'invite à le connaître. Parce que c'est incroyable. C'est un attouchement divin. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste tes émotions parce que Sandy, elle a joué un peu plus intensément à un moment. Parce que Julien y est monté comme ça. Je parle pas de ça. Je parle de ce temps suspendu où t'es toi et Dieu. Ça peut être à l'église, ça peut être dans ta chambre, dans ces moments seuls. Et je t'invite à le rechercher. Parce que ton Dieu est vivant, il peut te parler et il peut faire les choses pour toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on oignait ceux qui étaient les serviteurs de l'Éternel. Christ est venu. Christ est venu. Il est quoi? Il est le prêtre suprême. Il est le roi des rois. C'est juste ou c'est pas juste? Et il est le plus grand des sacrificateurs. Il est ces trois fonctions-là en même temps, Christ. Trois fonctions. Et ce Christ-là, lorsque tu lui donnes ta vie, eh bien, il te couvre de son manteau. C'est pas incroyable, ça? C'est pas Élie. On est impressionné par l'histoire d'Élisée, Élie. Mais toi, t'as été couvert du manteau de Christ. C'est bien plus grand que celui d'Élie. Et pourtant, tu te comportes parfois, tu vois? Tu comprends ce que je dis? Il y a un décalage parfois dans notre vie. On a été couvert par le roi des rois, le souverain sacrificateur, le plus grand des prêtres. Mais tu devrais être sous la Shekina tout le temps, toi. Connaître la gloire de Dieu. Tu as été couvert de tes péchés. Dieu te voit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es sanctifié. Souvent, on a des prédications sur la sanctification. Tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ça. Ouais, c'est une mode d'emploi, c'est difficile. J'ai l'impression de lire le mode d'emploi d'un médicament que je ne connais pas. Et c'est long. C'est long, sauf que tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est Christ qui t'a sanctifié, tu as cru en ça. C'est ça qui te rend saint. C'est pas par ton pouvoir, c'est pas par tes forces, c'est pas par tes actions. C'est parce que tu as dit, Jésus s'est présenté à toi et a dit, écoute, moi je peux faire quelque chose pour toi, est-ce que tu crois? Si tu crois, aujourd'hui je te vois comme saint. C'est incroyable. Tu vois? Et en fait, à ce moment-là, eh ben, quand t'es couvert du manteau de Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'es pas déclaré prophète, t'es pas déclaré enseignant, docteur, pasteur, toutes ces choses-là. Tu deviens enfant de Dieu. C'est la base. Et trop souvent, on voit des gens, je veux être pasteur, je veux être ceci, je veux être cela, machin. Est-ce que tu vis vraiment en tant qu'enfant de Dieu? Parce que ça, c'est la base. Tout le reste après, c'est après. C'est du plus. Le roi des rois t'a couvert, tu deviens son enfant. C'est pas incroyable? Et des fois, j'ai l'impression qu'on oublie ces choses-là. On court après la Shekina. Ce matin, Sandy, elle nous a emmenés dans la Shekina. Et on recommence lundi, il n'y a plus la Shekina. La même semaine se répète. Ah, j'espère que mercredi, à l'intercession, Josine, elle sera enflammée. Hein, j'ai besoin qu'on m'enflamme à nouveau. La Shekina! Et puis quand tu sens pas la présence de Dieu, parce que la Shekina, c'est quoi? C'est pas l'onction, c'est pas le manteau que tu portes. C'est la manifestation visible et concrète de l'Esprit sur toi, sur ta vie, de Dieu. Et plusieurs ont connu la Shekinah. Vous voulez des exemples? Exode 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse l'a connu. Il était appelé, il était loin, il était tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il est sur le mont Sinaï, et là, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Waouh! Tu ne ressors pas le même de ces choses-là. Moïse l'a connu, Salomon l'a connu. Lorsque Salomon eut fini de prier en 2 Chroniques, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le peuple, le temple. Oh là là, le peuple, c'est pour nous, ça. Ézéchiel 1, verset 28. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages, un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel, un reflet. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Waouh, c'est des expériences fortes. Moi, j'ai vécu des expériences comme ça. Ici, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. J'ai dit, mais c'est bon. Quand tu goûtes à la sainteté de Dieu, mais tu penses que plus rien n'est impossible, tu vois, c'est incroyable. Et puis la galère a commencé. Dieu a commencé à travailler le caractère, il a cassé mon orgueil, il m'a ramené un peu d'humilité. Ah, t'as goûté ? Ben non, il faut changer. La sanctification, c'est par Christ. La consécration, c'est toi qui décides. Est-ce que je veux mettre du temps à part pour l'Éternel ? Ok, j'ai des aptitudes. Ok, je suis un bon louangiste. Ok, je sais faire des choses. C'est super. Tu sais, c'est comme le médecin qui a fait ses études, il est devenu docteur, il n'a jamais exercé. Moi, je ne vais pas entre ses mains. Pourtant, le diplôme, il dit qu'il est capable. Vraiment, il est capable. Il y a tout ce qu'il faut, on lui met un 20 sur 20. Mais s'il ne pratique pas, eh bien, c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Exactement la même chose. Si je peux avoir plein de talents, je peux faire plein de choses, mais je dois décider de servir l'Éternel et me revêtir de son sang pour être capable de le servir correctement et pas selon mes ambitions, mes envies, mes désirs, mes plaisirs. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour nous tous? Et on s'interroge, on dit, Seigneur, pourquoi je fais ça au fond? Ou pourquoi je ne le fais pas? Parce que parfois, tu ne fais pas parce que tu sais quoi, tu as encore à moitié le manteau. L'Éternel, il veut te revêtir de ton manteau, mais tu gardes le tien. C'est comme si, tu vois, là, il est en train de t'enfiler le nouveau manteau, il est en train de te revêtir. L'autre manteau, tu te déshabilles, mais tu retiens les deux, tu vois. Tu as l'air bête comme ça. Et tu ne te revêts pas complètement du manteau de Christ. Et tu restes attaché à des choses futiles, et tu n'es pas comme Élisée à dire, maintenant, cette vie, c'est fini. C'est un choix. Mes addictions, c'est derrière moi. Mes faiblesses, c'est derrière moi. Mon désir de reconnaissance, c'est derrière moi. Parce que Dieu m'a reconnu comme son enfant. Et il fera ce qu'il veut de ma vie. Je la lui donne, elle est à son service. Et tu vois, parfois on est comme ça. Et c'est ce que je recevais mercredi. Parfois on veut tellement ces choses de Dieu, ces promesses de Dieu, mais on ne se déshabille pas complètement. Et alors, on va dimanche après dimanche, je veux connaître la Shekinah. On devient des experts, hein. Ah, lui, comment il prie, ça ne m'emballe pas trop, tu vois. Mais lui, j'aime bien, parce que je me sens un peu plus... C'est parce que ça touche à tes émotions, mais ce n'est pas ça, la Shekinah. Oui, quand tu es touché de Dieu, tes émotions, tu frétilles. Mais ce n'est pas le frétillement qui produit la Shekinah. La présence de Dieu, tu comprends? C'est le cœur disposé. Tu me suis toujours? En Matthieu 17, versets 3 à 5, « Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. » Vous vous souvenez de ce moment de la transfiguration? Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Ils sont présomptueux, hein? « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. » Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Alors, qu'en est-il vraiment pour nous aujourd'hui? Vous voyez, à l'époque, Élie a laissé l'opportunité à Élisée de retourner voir sa famille et de dire « ça y est ». C'est sympa quand même. Il lui a laissé le temps, préparer ses affaires, tuer ses bœufs, faire son sacrifice. Si vous voulez respecter en fait les règles, respecter ses désirs. Et c'est parti. Mais vous allez voir qu'avec Jésus, c'est quand même autre chose. Avec Jésus, on a le droit à une gloire encore plus glorieuse. On peut toucher à des promesses que Élisée et Élie n'auraient jamais espérées. Ce que Élisée et Élie ont fait, c'est minimum pour toi. Même si tu ne feras pas pareil, tu feras différemment, mais nous, on est appelés une plus grande gloire. Christ est révélé. OK ? Mais Christ, ça va plus fort, plus intensément, plus vite. Mais des fois, c'est dur. Hein. C'est dur de suivre. C'est vraiment dur. Luc 9, versets 59 à 62. Ah, j'aime bien ces histoires, moi, parce que ça me... C'est Jésus qui parle. Beaucoup voulaient suivre Jésus. Ils ont vu ce qu'il faisait, c'était incroyable. Nous, on veut te suivre, on veut faire comme toi. T'es impressionnant, Jésus. Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et la personne lui répond, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » C'est compliqué, hein ? Même pas le temps de faire son deuil, le gars. « Tu veux me suivre ? Je suis là maintenant. Je me présente à toi maintenant. » Et Jésus, il va toujours mettre les gens face à ce qui est important pour eux, ce à quoi ils sont le plus attachés. Est-ce que même ça, tu es prêt à le déposer pour moi ? Le jeune homme riche, vous vous souvenez du jeune homme riche ? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Il ne lui dit pas la même chose. Hein ? Il ne dit pas « va prier, va chercher Dieu, cherche la volonté de Dieu ». Il dit « vends tout ce que tu as ». C'est impressionnant. Vends tout ce que tu as. Parce qu'il voit qu'il est attaché à ses biens. Et toi, à quoi es-tu attaché? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que le manteau n'y arrive pas à te revêtir complètement? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te retient à suivre pleinement l'Éternel? Le problème, c'est que c'est vite. C'est intense. C'est maintenant. Waouh! Un autre dit... Je te suivrai, Seigneur, mais s'il te plaît, permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. La même chose que Élisée. Je vais aller dire au revoir. Jésus lui répondit, celui qui met la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est dur, hein, quand même. C'est dur. Franchement, c'est dur. Suivre Christ, c'est dur. Ça va te coûter. Tu vas sacrifier des bœufs. Peut-être tu stagnes dans ta vie spirituelle. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as encore en arrière? Il va falloir tuer des bœufs dans ta vie. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui t'attache encore? Jésus, lui, veut tout. Tu veux connaître sa gloire, il veut tout. Éphésiens 4, versets 22 à 24. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. C'est Paul qui parlera. Il parle aux Éphésiens. Il y a un mélange là-bas, tu vois, de non-juifs et de juifs qui sont venus à Christ. C'est un mélange. Il y a des jeunes chrétiens là-bas. Et il va dire, on vous a enseigné quoi ? À vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. Tu me poses la question, mais c'est quoi que je dois laisser passer derrière? Laisse ton ancienne façon de vivre derrière. C'est très clair. Il n'y a pas plus simple. Tu es attaché à ton ancienne façon de vivre, tu ne vivras pas ce que tu es appelé à vivre, selon Dieu, ce qu'il a promis pour toi. Et pourtant, tu avais plein de potentiel. Pourtant, tu étais rempli de vertus. Mais si tu gardes un attachement, tu ne vivras pas ce que Dieu veut que tu vives. Tu me suis ? Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'invente. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, donc votre ancienne manière de vivre, et se détruire et se détruisent sous l'effet des désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Se revêtir de l'homme nouveau. Ah là là. Vouloir servir, c'est bien. Vouloir servir Dieu, c'est bien. Mais avec un cœur partagé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc pose-toi la question, mon cœur est-il partagé? Tu ne peux pas porter deux manteaux en même temps. Parce qu'il y en a un qui va se mettre à recouvrir l'autre. Mais souvent, ce qu'on fait fuir, c'est la présence de Dieu. Avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de désirs, toutes sortes d'ambitions qui ne sont pas canalisées dans la volonté de Dieu, ça commence à recouvrir le manteau que Dieu veut te donner, la nouvelle identité. Le manteau, tu vois, c'est l'identité. Ça représente quitter maintenant. Je quitte ce que j'étais avant, je me revais de Christ. Tu vois, moi, quand je suis en habit comme ça, je n'ai pas envie de rentrer dans l'atelier de menuiserie. Parce que je vais me salir, parce que là, je suis en mode pasteur. Je suis en mode prière. Je suis en mode chasser les démons. Tu vois, je suis chaud. Par contre, quand je suis en habit de travail et que Vincent il vient dans l'atelier, Vincent, il a tenté hier. Il a tenté. J'étais dans l'atelier, donc c'est mon maître dans la menuiserie. Il vient et puis il me voit là. Et je sais qu'il me dit, écoute, tu te souviens de Michael, avec qui on a travaillé il y a 15 ans? Il le suit. Et puis c'est quelqu'un qui arrive, qui vient tout doucement à la foi. Et je vois Vincent arriver comme ça. Il dit, Alexis, il me fait un petit sourire. Sauf que moi, je suis arrivé une demi-journée en retard. J'ai du retard sur mon travail. Il dit, Alexis, il y a Michael, comme ça, oui, il n'a rien demandé. Hein. Je l'ai vu dans ses yeux, je le connais assez maintenant. Ah, j'ai dit, non, là, je ne suis pas en mode pasteur. J'ai dit, Vincent, je n'ai pas le temps. Hein. Je n'ai pas le temps, je dois travailler. Donc, il m'a laissé tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je suis en habit de travail, par contre, il n'y a rien qui m'arrête. Je vois un rat passer, il ne me fait pas peur. Je vois une souris, je l'écrase. Je suis prêt à soulever des montagnes, des fois un peu trop. Je suis en mode guerrier, tu vois. Je suis conditionné. J'ai mis mes vêtements de travail, là. J'ai mis les vêtements du combattant. Par contre, je suis habillé comme ça. Il y a une souris qui passe. Je suis comme ça, hein. Je monte sur la table. C'est pas pareil. C'est comme si, tu vois, il y a deux vies. On doit se revêtir du bon manteau dans ce qu'on fait. Dieu veut te revêtir. Il veut te donner cette autorité qu'il a pour toi. Il veut que tu puisses affronter toutes sortes de choses. Mais tu ne peux pas avoir deux habits en même temps. Si je suis menuisier, je suis menuisier à ce moment-là. Si je suis pasteur, je suis pasteur à ce moment-là. Ça va? Oh! Ah, j'aime bien ça. Un truc qui m'a travaillé aussi, c'est... Je dis à Chanel, je vais prêcher sur la Shekinah parce que ça m'énerve. On est là en cours après la présence de Dieu, on ne sait même pas pourquoi. Il faut savoir pourquoi on court après la présence de Dieu, sinon on court après une chimère. La Shekinah, c'est la présence manifeste. On a pris ces versets et parfois j'ai l'impression qu'on court plus après ce que Dieu peut faire à ce qu'il nous demande d'être et à ce qu'il nous demande à nous de faire. On veut que lui se manifeste parce que ça nous fait tellement de bien que ça devient le sujet de notre louange. Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ton machin, j'aime ton truc. Et on ne le loue plus pour qui il est. On ne l'adore plus pour qui il est. On se trompe de cible. Je l'adore pour qui il est. Je me consacre et je peux connaître sa Shekinah. On ne court pas juste pour la présence de Dieu. Parce que si on devait imagine un désert. Tu as un désert devant toi. Et puis là, il y a la pluie qui commence à tomber. Et vous l'avez entendu, hein, dans ce verset qu'on a lu en Apocalypse, il était écrit quoi? Il est écrit comme une pluie. Comme une pluie. Tu vois, la présence manifeste de Dieu, la Shekinah, c'est comme une pluie. Ça vient, ça arrose le sol. Ça fait du bien, ça rafraîchit, ça t'encourage parce que tu te rends compte que dans le désert, Dieu est avec toi, tu es dans ton deuil, tu pries, Dieu te touche, ça te motive, ça t'encourage. Mais tu continues vers demain, à nouveau le soleil brûle et il fait sec à nouveau. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que la Shekinah, elle va te faire du bien, elle va t'encourager, elle va faire quelque chose. C'est une bénédiction de Dieu pour nous que d'être couvert par la pluie. D'accord? Et je souhaite à tout le monde d'être couvert par la pluie tous les dimanches. Soyons clairs. J'aime la pluie. J'aime être rafraîchi. J'aime être enflammé. Mais ça, ça m'encourage pour ma mission. Alors maintenant, tu as un deuxième désert. Dans ce désert, eh bien là, on ne parle plus d'une pluie, on parle d'une source qui vient par le dessous. Là. Alors les changements ne se font pas directement. Ce n'est pas tout de suite verdoyant, mais après quelques semaines, on voit que la vie arrive. Imagine ça, ça commence à être verdoyant. Là, ça change la topographie des lieux, ça change l'horizon, ça transforme complètement. La parole de Dieu, elle est là pour nous transformer. Si tu cherches la présence de Dieu juste pour une expérience, ça ne sert à rien. Si tu cherches la présence de Dieu pour t'encourager et pour dire « Seigneur, moi je veux te suivre, je veux être transformé de l'intérieur », et bien là, c'est une source que tu cherches. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que tu veux être animé de la source de Dieu qui, elle, vraiment va créer en toi la capacité de faire la volonté du Père? La volonté de Dieu pour ta vie, c'est quoi? C'est d'être l'enfant de Dieu. Tu es héritier de son royaume. Tu as accès à tout ce qu'il te propose. Le problème, c'est que tu as toujours les pieds sur terre. Et tu as la tête dans le ciel. Et que Dieu te dit, maintenant, il faut que tu amènes les choses qui sont dans le ciel, sur terre, dans ta réalité. Ne fuis pas ta réalité, mais amène la vie du ciel, parce que tu es connecté. Je t'ai donné mon manteau. Aujourd'hui, ce n'est plus les prophètes, les machins. C'est tous les enfants de Dieu sont connectés avec la vie et ils peuvent libérer. Et libère la vie où tu es. Sauf que parfois, on fuit ces réalités-là. On goûte à la Shekinah et on ne veut plus y retourner. Mais Dieu dit non, je veux que tu y retournes, mais différemment. Là où tu n'arrivais plus à aimer, là où tu n'arrivais plus à pardonner, là où tu étais dans la honte, la peur, la crainte, la timidité, je veux changer ton cœur. Et ça, parfois, ça dure un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, trois mois, un an. Dans ta famille, il veut changer ton attitude pour que tu sois un témoignage, une bénédiction. Ça, c'est la source. Et la Shekinah, tu vois, c'est le dimanche matin, ça recharge les batteries. Et tu sais pourquoi tu fais ça. Perds pas le but. Perds pas l'essentiel. Il écrit, laisse-toi guider par l'essentiel. Jésus, je suis sauvé. Papa, il a dit, j'ai reçu, c'est pour donner. Je veux donner de l'espoir à mes collègues. Je veux être intègre et juste dans tout ce que je fais, être un témoignage. Je veux être un témoignage vivant, Jésus, je veux être comme toi. Et ensuite, tu me donneras, tu m'équiperas de ce dont j'ai besoin dans les situations concrètes. Si tu cours après la prophétie, c'est bien. Mais s'il faut guérir et que toi tu cours après la prophétie, ben, tu ne guéris pas. Si tu cours après la guérison, mais qu'il faut encourager, mais que toi tu es dans ton truc guérison, ben, tu passes à côté. Mais si tu dis Seigneur, maintenant moi je suis disponible, fais ce que tu veux de moi, ben, là il va t'étonner. Il va t'étonner. Moi, j'ai vu plusieurs guérisons quand j'ai prié pour des gens. Mais je ne guéris pas tous les jours. J'ai reçu pas mal de paroles prophétiques, mais je ne me dis pas prophète. Mais je dis, Seigneur, je veux que, s'il n'y a que moi ici, maintenant, là, dans mon... fais ce que tu veux de moi. Je ne vais pas attendre Sandy, je ne vais pas pleurer après Antoine. Tu es loin. Tu es loin. Tu peux goûter la gloire de Dieu. À tout moment. Et il peut faire son travail avec les gens qui t'entourent. La vie chrétienne, ça se vit à fond ou ça ne se vit pas. Ça se vit à fond ou ça ne se vit pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en chemin. Hein. Qu'il y a des choses que tu travailles, que tu traverses. Mais tu es engagé à dire, Seigneur, vraiment, je veux que tu transformes mon cœur. Et ça, c'est dur. Je tourne ma tête, les bœufs, je les laisse, je m'en vais. Et Jésus, il dit, c'est plus vite, plus fort, plus intensément avec moi. Parce qu'il veut voir ta première réaction. Il veut voir, tu vois, comme quand Élie a mis son manteau, il a tout abandonné, il a couru, tu vois. Si quand Christ y dépose son manteau, tu négocies, c'est que tu n'es pas encore prêt. Moi, j'ai connu des gens, ils négociaient ici. Ouais, mais si vraiment Dieu existe, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et ça, ils négocient pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au moment où Dieu se révèle à eux et qu'ils tournent le dos, c'est plus les mêmes. Ah, c'est plus les mêmes. Hein. T'as déjà vu ça, toi? On voit ça dans nos vies. C'est plus la même chose, c'est plus la même histoire. On veut vraiment suivre Christ. Apocalypse 1, versets 5 à 6, on va terminer avec celui-là. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés des péchés par son sang. C'est le message de l'Évangile. T'es couvert. Si tu l'acceptes, il ne te force pas. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au des siècles des siècles. Amen. Je suis sacrificateur. Je suis porteur de la présence de Dieu. Je suis porteur de l'onction de Dieu à des moments dans ma vie particuliers parce que Dieu a besoin de moi. Je peux goûter à la Shekinah. Je peux goûter à sa présence dans le lieu seul, secret ou avec mes frères et sœurs. Il n'y a aucun problème. Mais le but, c'est quoi? C'est que je manifeste. Je suis un sacrificateur. Je suis au service de l'Éternel, je manifeste sa gloire pour sa gloire, mais jamais pour moi. Je fais partie de sa maison, je suis son enfant, j'ai accès à tout. Mais encore faut-il que je le désire profondément. Et c'est là où il faut interroger ton cœur ce matin. Dans quel état d'esprit es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as ce manteau, cette image, elle est restée toute cette semaine dans ma tête? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es avec deux manteaux en même temps en ce moment? Moi, vous savez, Dieu, il m'a foudroyé. Hein. Vous connaissez mon histoire hein, avec le dos. Foudroyé, mais foudroyé. Parce que j'ai promis des choses à Dieu, j'ai fait des vœux à Dieu. Et quelque part, je m'en éloignais tout doucement, tu vois. Parce que la vie te tire et te roule dessus. Et tu as toujours des exigences de partout. Tu dois répondre à tellement de choses. Et Dieu m'a prévenu, tu vas tomber une fois, prophétiquement, de la part de la bouche de quelqu'un, 6 mois avant. Deuxième fois, tu vas tomber, tu seras à terre. Et puis Alex, il disait, non, moi je suis fort, je vais avancer avec toi Seigneur, je ne peux pas faire autrement, vous voyez? Et puis Dieu a dit, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de toi, je fais comme je veux. Boum, on n'a pas un toit sur la tête, on est béni. Et il n'y avait pas Alexis. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on résiste à Dieu, on lui promet des choses, et il est gentil, il vient quand même nous dire, hey, je suis là, tu fais 20 heures de plus par semaine, où est le temps que tu m'as promis dans la prière ce matin? Tous les matins, tu as promis de te réveiller, de passer un peu de temps avec moi. Où es-tu? Où es-tu? Ah, tu es fatigué le soir? Une réunion en semaine, c'est compliqué. Où es-tu? Et puis quand ça ne va pas et qu'on est dans le désert, on est là à l'église et on dit « Seigneur, ta Shekinah ». On est tous pareils. Hein. Il ne faut pas me la faire à l'envers. Hein. On est tous pareils. Mais Seigneur, mon cœur, où est mon cœur? Où est-ce que j'en suis? Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur, parce qu'on aurait peut-être passé toute la matinée dans la louange. On aurait voulu, Seigneur, chercher ta gloire encore plus, c'est vrai. Mais Seigneur, tu veux nous interpeller aussi, et je sais que tu nous interpelles ce matin, ça fait des semaines que tu nous parles. Alléluia. Tu nous parles, Seigneur, de cette capacité qu'on a de pouvoir te servir. Tu nous as graciés, tu nous as libérés, Seigneur, de nos faiblesses. Et parfois, on s'accopine toujours à elles, Seigneur. On s'accopine avec des choses, Seigneur, qui ne nous permettent pas, Seigneur, de vraiment connaître ces promesses, connaître cette gloire, connaître cette profondeur dans l'esprit avec toi. Pour connaître cette proximité, connaître ce travail avec toi dans tous les aspects de nos vies. Jésus, on veut te demander pardon pour nos faiblesses. On veut te demander pardon pour nos mots parfois où on s'engage trop vite. Parce que toi, quand on s'engage avec toi, c'est tout de suite, c'est maintenant. T'attends plus. T'as déjà donné ta vie à la croix, t'as déjà tout fait pour nous. T'attends plus. Il n'y a plus question d'attendre maintenant. Maintenant, il est question de répondre à l'appel et de dire « Seigneur, je viens à toi ». Alléluia. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi encore ce matin. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi encore ce matin. Ce matin, on a chanté des chants, Seigneur. On a dit que tu étais saint. On a dit, Seigneur, que c'est ta présence qui nous donne la paix. On a dit, Seigneur, que c'est toi, le Dieu éternel. On a dit qu'on t'exaltait. On a dit tellement de choses, Seigneur, que les monts vacillent en ton nom. Seigneur, on veut vivre ces choses en toute simplicité. On veut les vivre réellement. On veut les vivre concrètement, Seigneur. On veut que ce soit une réalité dans notre vie de tous les jours. On croit que tu es ce Dieu qui agit en toute puissance. Et Seigneur, je te prie de te révéler à chacun maintenant. Que chacun considère, Seigneur, les engagements qu'il a envers toi. Ce matin, on a reçu dans l'intercession que toi, tu étais fidèle. Toi, tu ne nous abandonnes pas. Toi, tu nous as promis des choses, tu les accomplis. Et nous, tellement de fois, Seigneur, on manque de fidélité avec toi. Ne serait-ce que ce soit dans notre engagement, Seigneur, personnel, dans notre église locale, Seigneur, dans la réalité de tous les jours avec nos collègues, quand on leur ment, Seigneur, par exemple, Seigneur, c'est comme si on te faisait une crasse et on disait « Non, tu n'es pas mon Dieu, Seigneur. » Il y a tellement de choses, des attitudes qu'on peut avoir. On veut te demander pardon, Seigneur. On veut te demander pardon et en même temps, Seigneur, on veut te dire qu'on est là, Seigneur, et on désire te servir. Aide-nous dans nos faiblesses. Fais de nous, Seigneur, encore ce royaume de sacrificateurs, engagés, sérieux avec ta présence, qui ne rigole pas avec ton onction, qui ne rigole pas, Seigneur Jésus. Ce n'est pas un jeu, Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Vraiment, ce n'est pas un jeu, Seigneur. On ne s'amuse pas avec toi, on ne rigole pas avec toi. On s'engage et tu nous utilises profondément, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, dans ce temps de réflexion, Seigneur, je ne veux pas simplement que tu parles à notre âme, mais que tu réveilles l'esprit de vie qui est en nous, Seigneur. On ne veut pas juste une pluie, là. Là, je ne demande pas une pluie, Seigneur. On n'est pas là pour provoquer quelque chose, Seigneur. Mais Seigneur, ce que je désire ce matin, c'est que réellement, il y ait une source plus profonde, Seigneur, qui commence à jaillir de nos entrailles, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait vraiment des prises de position claires, Seigneur. Nettes et précises, je ne me détournerai plus, Seigneur. Que cette source jaillisse. Seigneur, tous les bouchons, Seigneur, qui empêchent les sources de jaillir, on veut les ôter maintenant. On veut les ôter. Alors tu penses à quelque chose qui peut être bloquant pour toi. C'est à toi de penser. Tu réfléchis, tu mets ton cœur voilà, devant l'Éternel. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui peut être un blocage pour moi? Qu'est-ce que je fais ou que je ne fais pas qui peut être un blocage pour moi? Je veux être ce sacrificateur. Je suis ton enfant et je veux bénéficier tout simplement de toutes tes promesses. Je veux aller chercher mon héritage et je veux me mettre en action, je veux me mettre en pratique, Seigneur. Alors tu réfléchis au bouchon, ce qui bloque, et dans ton cœur, en toute simplicité, tu dis, Seigneur, voilà, maintenant c'est derrière. Voilà, je dépose le manteau et je me revais du nouveau manteau réellement, profondément. C'est ton choix, il n'y a personne qui peut te forcer. Mais le Saint-Esprit peut t'interpeller, il peut t'encourager, il peut te dire, vas-y, fais-le, tu vas voir, tu ne seras pas déçu avec moi. Alors Saint-Esprit, fais ton travail dans nos cœurs en profondeur. Amen.